cours de philosophie éthique du Père Marie-Dominique Philippe, le 5 juin 2000 à Saint-Jean-d'Or.
Le passage entre l'intention de vie et le choix des moyens implique nécessairement le conseil et les délibérations, ou la délibération qui exige le conseil. Vous comprenez ? L'intention de vie nous fait toucher la fin. Et le choix regarde les moyens. Alors, il faut, pour que le choix puisse être le plus vrai possible, avoir une délibération la plus objective possible, la plus vraie possible, et la délibération implique un épanouissement dans le conseil. Oui, philosophiquement, vous expliquez ce que c'est que le conseil. C'est intéressant puisque il y aura un conseil aujourd'hui, demain et après-demain. La délibération des moyens. Il y a toujours deux tendances. Ça existe dans toutes les maisons très bien. Il y a toujours deux tendances, le choix des moyens. Il y a le choix des moyens de celui qui regarde avant tout la capacité de ceux qui doivent choisir. Et ceux qui regardent avant tout le moyen le plus efficace en vue de la fin. Donc il y a deux regards. Parce que la délibération se fait toujours entre les deux. Le regard de celui qui doit choisir, ça on le comprend très bien. Il est très facile à comprendre. Celui qui doit choisir, on voit ses capacités et ses faiblesses. On connaît la puissance qu'il a pour entrer dans la bataille. Et on sait les faiblesses qui existent en lui, qui fait qu'il n'arrivera pas. Alors ça, ce sont les conseillers, c'est la délibération qui regarde avant tout les sujets, les personnes. Et puis, il y a les autres, plus hardis, qui regardent surtout la finalité vers laquelle on tend. Il faut tendre vers cette finalité, il faut aboutir à cette finalité, même s'il faut crever. C'est la finalité qu'on cherche. Et c'est très net, hein, c'est très curieux à voir ça. Je n'entre pas d'une façon trop précise, hein, parce que vous reconnaîtriez tout de suite les individus, les personnes. N'est-ce pas ? Quand on connaît un peu les personnes, on sait très bien. Ne disons pas qu'il y en a de plus miséricordieuses et d'autres qui sont surtout pour la finalité, non. Ce n'est pas une question de miséricorde. C'est une question de manière de regarder les choses, de les regarder du côté subjectif ou du côté objectif. C'est beaucoup plus ça. L'objectivité de la finalité. Qu'est-ce que vous cherchez ? C'est toujours ça qu'il faut se poser. Est-ce que vous cherchez la sainteté ou pas ? Qu'est-ce que vous cherchez ? Vous cherchez d'atteindre la fin. Ou, au contraire, vous regardez le sujet, oh, je suis fatigué, c'est vrai, peut-être attendre un peu, faut voir. Alors on a la sainteté à petite cuillère. Il faut aller lentement, sûrement, beaucoup plus sûrement. Quand on va lentement, beaucoup plus sûrement, un autre passe avant. C'est toujours comme ça. Il y a une lutte constante. Vous voyez, Jésus nous dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais la division. Pourquoi ? Parce qu'il est venu nous rappeler l'exigence de la finalité qui est beaucoup plus forte en éthique chrétienne qu'en éthique humaine. Et la grosse différence, c'est évidemment les finalités, c'est sûr, mais c'est les finalités dans la mesure où elles exercent leur finalité. L'éthique chrétienne ou l'éthique religieuse, la finalité est présente dans le choix des moyens. Et nous sommes déjà ressuscités, le mystère de l'ascension, nous sommes déjà montés au ciel. On s'en est pas encore aperçu, mais ça fait rien, on le sait, objectivement. On est monté au ciel. De l'autre côté, on regarde beaucoup plus le point de vue subjectif. Donc, le point de vue psychologique. Vous voyez, il y a un regard philosophique, il y a un regard psychologique, si vous voulez. Ça, on voit tout de suite. Le regard philosophique regarde la finalité. C'est ça qu'on doit atteindre. Et plus c'est difficile, plus on y va. Parce que la difficulté doit augmenter le courage. Et non pas l'affaiblir. Et puis il y a le côté psychologique où on voit la difficulté des moyens, on voit la possibilité. On regarde les moyens. Et les moyens objectifs qu'on doit employer et surtout les moyens subjectifs. Tu es fatigué maintenant, c'est pas étonnant que tu es comme ça. Alors il faut faire attention, attends un peu, tu vois. Et la question temps joue énormément dans le choix des moyens. Parce qu'on est dans la libération par rapport au conditionnement. Dans le regard de la finalité, on brûle les étapes. Et parce qu'on garde la finalité. Et pour la finalité, il n'y a pas d'étape, on y va directement. Surtout au plan chrétien. Au plan humain, c'est différent, la finalité est moins immédiatement présente. Là, vous avez les deux regards, éthique humaine, éthique chrétienne, où la délibération, j'allais dire, est plus importante pour l'éthique humaine que pour l'éthique divine, pour l'éthique chrétienne. Parce que dans l'éthique chrétienne, la finalité est plus présente. Est plus inscrite dans le sujet. Et le sujet voit mieux les moyens, les stratégies d'atteindre la fin. Il y a une subtilité plus grande. De sorte que la délibération, les lois de libération, est-ce qu'il y en a ? Aujourd'hui, on regarde la psychologie des groupes. On regarde la psychologie pour gouverner un conseil. Mais on supprime le conseil. Vous voyez, très facilement. Parce que il y a un principe très important. Les voies délibérées déterminées de l'art, les voies indéterminées et libres de la morale. Autrement dit, Thomas d'Aquin, à la suite d'Aristote, a vu d'une façon très très nette que l'artiste, comme artiste, a très peu de délibération. C'est très curieux. Quand on est proche d'artistes qui sont en train d'exécuter leur œuvre, de réaliser leur œuvre, la délibération ne signifie rien. Allez donner des conseils à un grand artiste, il vous jettera. Laissez-moi tranquille, je sais ce que je fais. Et il a raison de dire ça, comme artiste. Il voit déterminé. Il cherchera longuement, et puis tout d'un coup, il se lèvera en disant, ça y est, je fais. Il aura vu le passage pour atteindre la finalité, qui est une finalité limitée, une œuvre qu'il doit exécuter. Tandis que la finalité morale n'est pas une œuvre qu'on fait. On se laisse imprégner par la finalité, par le bien qui nous attire. On ne le fait pas. Tandis que l'artiste fait sa finalité, il réalise son œuvre. Et parce qu'il fait sa finalité, qu'il réalise son œuvre, il voit les moyens sûrs, nécessaires pour atteindre cette fin. Et c'est déterminé d'une façon implacable. N'essayez pas d'aller contre, vous le mettrez de mauvaise humeur et vous renverrez paître. Et très facilement, quand on est artiste et qu'on passe au gouvernement moral, on transpose les mœurs artistiques à la finalité. Et ça, ça se voit énormément en politique. On est gouverné aujourd'hui, très souvent, d'une manière artistique, les voies déterminées de l'art, parce que on est orienté vers le point de vue de l'efficacité. On ne voit plus le bien, le bonheur profond des personnes. Celui-là, il nous dépasse. Et par le fait même qu'il nous dépasse, il n'y a pas de voie déterminée. On avance petit à petit. Tandis que dans les voies déterminées de l'art, on avance à grands pas. C'est très très important, ça, de regarder ça de près. Et on a une expérience constante de ça. Très curieux. Et il y a le regard qu'on doit avoir, parce qu'on doit toujours garder une avidité de grandir, d'aller plus loin dans la recherche de la vérité, et par le fait même d'être très attentif aux expériences, puisque les expériences nous obligent de progresser. Alors c'est très curieux de voir ça. Les délibérations. Mais nous avons des délibérations quand on réunit le conseil des prophètes solennels pour voir si on doit accepter tel ou tel frère. On ouvre les délibérations. Quand on écoute ces libérations, on voit tout de suite le côté de celui qui regarde la prudence selon un certain mode artistique, et puis celui, au contraire, qui regarde la finalité, la sainteté du frère. Et c'est très, très important et intéressant de voir ça. Et alors que ça devrait être une délibération politique, morale, religieuse, chrétienne, ça devient non pas une délibération chrétienne où on voit le bien de l'individu, mais on regarde l'efficacité de la communauté. Le tout l'emporte sur la partie, sur la finalité. Alors ça, c'est très grave. Et il faut se retenir à quatre pour ne rien dire. Ça se voit, c'est gros comme... Alors, petit à petit, le bien de la communauté, on en fait une œuvre d'art. La communauté, ça m'appartient, je suis dedans. Depuis que je suis dedans, mais ça m'appartient. Il doit être très bien. Alors, il s'agit de la ciseler. Il s'agit de la... On en fait une œuvre d'art. Communauté en soi. La communauté en soi, elle existe pour la finalité des individus, au point de vue chrétien, des personnes. Aucune communauté n'a la main mise sur la personne. La fameuse phrase d'Aristote est toujours très périlleuse à bien comprendre au début de la politique. Le bien commun est plus divin que le bien individuel. Aristote dit ça. Alors on l'applique grossièrement. Aristote est toujours très subtil et très intelligent. Alors on peut dire qu'on ne comprend pas. C'est tout à fait normal de dire qu'on ne comprend pas. Mais l'appliquer selon la compréhension qu'on a, et quand cette compréhension est mauvaise, on met Aristote dans le piège. C'est pas Aristote, c'est vous. Le bien commun, c'est le bien commun humain. C'est pas le bien spirituel. Le bien spirituel de la personne dépasse le bien commun, parce qu'il est divin. C'est la contemplation. C'est la sainteté. La contemplation au plan philosophique, la sainteté au plan divin. Il y a donc un problème extrêmement intéressant pour chacun d'entre nous. La profession perpétuelle nous donne le droit du citoyen du ciel. Il peut voter sur le sort d'un frère, d'une sœur. Et donc, il doit coopérer avec le Seigneur, Dieu. Comment Dieu me demande de voter, citoyen du ciel? Et très facilement, on retombe dans un point de vue humain et un point de vue artistique, mais pas du grand art, hein. Artistique dans le sens que bon, la communauté, ça m'appartient. Je suis dedans. Depuis que je suis dedans, ça marchera maintenant. Et ce sera ma communauté. Non. Humainement, c'est possible. Vous pouvez avoir votre communauté humainement, pas au point de vue chrétien. Et alors, il faut se rappeler que la délibération, c'est quelque chose d'essentiellement humain. C'est pas divin. Et c'est essentiellement divin, humain. De sorte que ce qui explique que la délibération, la plupart du temps, c'est la loi du suffrage universel qui peut exister même dans des communautés religieuses. et la loi du suffrage universel, Cicéron, qui est un bon rhéteur, alors il peut dire ouvertement les choses, dit, ça fait toujours dégringoler. Aller vers le bas. On te monte jamais, on ne remonte jamais l'escalier, la montée, la montagne, par le suffrage universel. On descend dans les vallées. C'est très vrai, ça. Alors, la délibération, elle est essentiellement humaine. Et donc, le suffrage universel vient. C'est la quantité essentiellement humain. La quantité l'emporte. Le nombre l'emporte. Le nombre fait masse. Dieu ne délibère pas. Alors, dès qu'on a quelque chose d'humain, on délibère. Quand Jésus était au milieu de ses apôtres, il ne délibérait pas. Il pointait. Et il a fait ça très bien pour Pierre. Il a très bien pointé. Même Dieu. C'est pas le suffrage universel, ça. Au suffrage universel, qu'est-ce qui aurait passé ? Qu'est-ce qui aurait été le bon pasteur si les apôtres avaient délibéré? Ah, c'est vrai, le Saint-Esprit est là, je sais bien, comme les apôtres et comme tous des saints en herbe. Le Saint-Esprit est là. Je ne sais pas, il sert des pierres. Jésus a tranché Pierre. Ça ne veut pas dire que nous devons toujours trancher, non. Nous devons garder ce mode humain, mais le savoir. Il faut savoir que, ordinairement, le conseil est en majorité du côté de ce qu'il y a de moins divin et de plus humain. C'est très curieux. Et plus le conseil prend d'importance, plus il diminue. Il faut savoir ça. Parce que quand on fait partie d'un conseil, alors on ne doit pas augmenter ce poids. On doit être mu par l'Esprit Saint et dire on va le relever et on va réaffirmer les choses saintes. Vous voyez, il y a un phénomène humain auquel il faut être très attentif. Qu'est-ce que c'est que la délibération? C'est faire marcher notre raison, les relations. Nous avons. C'est un jeu de relations constant. Et parce que c'est un jeu de relations, c'est très fatigant. Il n'y a jamais de repos. On ne se repose que dans la contemplation. Et la contemplation nous met au-delà de la libération. Ça, c'est très net. La contemplation nous repose et les délibérations, c'est un travail. Travail de la raison. C'est un travail qui peut se faire surtout quantitativement. On apporte des quantités d'informations. Vous voyez, alors là, on a le jeu de l'information. Quand les informations sont très nombreuses, ça fait un gros poids. Ces informations sont-elles justes, sont-elles fausses? C'est second. c'est une information. Et les informations jouent énormément au niveau de la délibération. Il faut, de temps en temps, avoir le souci de se mettre en dehors. On se met en dehors et on voit le jeu des relations. Si on est dedans, on ne voit plus. C'est forcé, on a opté pour un parti. Sans le savoir, on a opté pour un parti. Si on se met en dehors, on dit curieux. C'est très curieux. Vous voyez, ce petit fait qu'on peut facilement expérimenter. Quand il y a des choses très importantes qu'on doit voir ensemble au conseil, pour tout conseil, hein, qu'on voit chaque personne, on fait cette petite enquête, on est sûr, puisque on a vu chacun, ça passera. Catastrophe. Le jeu l'inverse, dans les délibérations. Et dans le vote qui suit la délibération. C'est très très curieux ça. Alors vous allez dire, c'est des gens qui ne savent pas ce qu'ils pensent. Quand vous avez vu, ils étaient comme ça, et puis dans la délibération, ils disent l'inverse. Non, c'est le poids de la délibération ensemble, politique, communautaire. C'est le poids de cette délibération qui est très différente de la délibération personnelle, individuelle. Intervient la quantité, le nombre. Et forcément, dans les libérations, le nombre intervient. La quantité intervient. Je ne peux pas m'abstraire de la quantité du nombre. Je suis obligé d'en tenir compte. Ce qui fait que cette délibération, ce conseil, est différent. Ce n'est pas uniquement un phénomène d'intimidation, ça joue, mais ce n'est pas ça uniquement. Il y a un phénomène beaucoup plus profond qui est le phénomène de la communauté, de la quantité. Il faut le sentir, ça. Il faut en faire l'expérience personnelle pour qu'on comprenne ce que c'est que le délibérer, ce que cela représente. Dans la réalité. Alors on passe de l'intention de la fin au choix par la délibération et le conseil. Et le choix est quelque chose d'extrêmement important. On en a parlé la dernière fois, c'est une chose extrêmement importante. Vous voyez ? Le choix est personnel. Et ordinairement, dans le choix, vous révélez le caractère profond de votre personne. C'est dans le choix, c'est pas dans le conseil. C'est pas dans les délibérations. Vous pouvez être mené là, sans le savoir. Dans le choix, c'est personnel. Il y a quelquefois, vous voyez, la délibération est houleuse, la délibération semble la quantité l'emporter, et puis on passe au choix où on vote secrètement. il y a un hiatus profond entre les deux. Oui. Et plus le conseil est fait de personnes qui ont vraiment du caractère et qui sont des personnes, plus il y aura une différence entre le choix personnel et la délibération. Il faut sentir cela au point de vue profond. Il faut sentir que la délibération fait appel en nous à l'aspect du conditionnement, l'aspect par où on est membre d'une communauté, l'aspect par lequel on est partie d'un tout. Je n'agis pas de la même façon en tant que partie d'un tout et en tant que personne. C'est là où vous voyez, au point de vue philosophique, la distinction que vous devez faire entre l'individu et la personne. Il ne faut surtout pas ramener la personne à l'individu. Il faut arriver à comprendre que l'individu, par l'individuation, je suis partie d'un tout. Par la personne, je suis un tout. En gros, c'est ça. La personne, c'est tout. L'individu, c'est parti. Et on sent très bien, dans toutes les délibérations que nous avons, on sent très bien la différence entre le choix de l'individu et le choix de la personne. Et du reste, pour cela, très souvent, il faut des votes secrets. Le vote secret permet à la personne individuée et qui, dans la délibération, a été manœuvrée comme individu, à retrouver ses droits personnels. C'est très important, ça. En vous, arrivez à distinguer l'individu et votre personne. Pour comprendre, c'est la même réalité. Hein. Vous ne pouvez pas vivre. J'ai laissé l'individu dans mes cellules. Il dormait bien ce matin, il continue de dormir. Et puis moi, personne est là. Personne de devoir. Non, c'est la même personne, c'est le même individu. Mais quelle est la dominante? Quand vous continuez de dormir, l'individu domine. Quand vous contemplez, la personne domine. Je prends exprès les exemples très gros pour qu'on comprenne. Il faut, en nous-mêmes, comprendre que le point de vue moral, pour nous, quand on est dans une communauté, l'individu et la personne jouent tout le temps l'un avec l'autre. L'individu aime les conseils, la personne aime le choix. Et elle choisit personnellement. Ce n'est pas l'individu qui choisit. L'individu accepte d'être parti, d'être conditionné par le fait même. Tandis que la personne, c'est la finalité. Ce n'est pas le conditionnement, c'est la finalité qui doit dominer.